accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Human activity has had a more direct effect on global warming than previously thought.
Bonjour à tous. Plastique, carton, papier, nourriture, chaque année, un citoyen européen produit en moyenne 475 kilos de déchets. Portés à l'échelle du continent, c'est 2,5 milliards de tonnes par an. Ces chiffres donnent le vertige. Que faire de tous ces déchets? Que deviennent-ils? Bienvenue dans Accent d'Europe, consacré aujourd'hui à ce grand marché mondial que représentent les ordures. Avec nous, tout au long de cette émission spéciale, Mathieu Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation, fondateur d'un magazine en ligne consacré aux questions d'environnement et auteur d'un livre-enquête « Survivre au péril plastique ». Alors, ce sujet du plastique s'est en effet imposé dans l'actualité ces derniers mois. Comment ça s'explique ?
La pollution plastique est grandissante. Il y a eu beaucoup d'images qui ont choqué les citoyens. Et en parallèle, il y a également l'interdiction par la Chine d'importer les déchets plastiques en Chine.
Alors justement, depuis ce refus de la Chine, qui était l'un des principaux importateurs de ces déchets, les Européens ont dû trouver une autre adresse pour leur plastique indésirable et ils n'ont pas cherché très loin. Direction la Turquie, où nous rejoignons Anne Andlauer, notre correspondante à Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Alors la Turquie achète depuis longtemps des déchets pour les recycler et produire des matières premières. Du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que les pays asiatiques refusent d'importer ces déchets ?
Eh bien, il y a d'abord l'impact chiffré. La Turquie reçoit beaucoup, beaucoup plus de déchets. Avant l'interdiction chinoise, début 2018, elle importait à peu près 4000 tonnes de déchets par mois. Après l'interdiction, selon les chiffres fournis par l'ONG Greenpeace, la moyenne sur 2018 a bondi à 33 000 tonnes de déchets par mois. Actuellement, la moyenne mensuelle est d'environ 40 000 tonnes en provenance des États-Unis, mais surtout d'Europe et en particulier d'Allemagne, de Belgique, de Slovénie et du Royaume-Uni. Non seulement c'est une hausse énorme, 10 fois plus de déchets par mois sur 2 ans, mais surtout elle a lieu alors que la Turquie ne dispose d'aucun cadre législatif pour gérer ses importations de poubelles européennes. Tout passe par l'intermédiaire d'entreprises locales de recyclage qui obtiennent certes une licence des autorités, mais c'est à peu près tout l'encadrement législatif existant. C'est ce que dénonce Deniz Bayram, responsable de projet chez Greenpeace en Turquie.
Après avoir été alertés, nous avons constaté sur place, au poste de douane à la frontière, que les camions transportant ces déchets n'étaient que grossièrement contrôlés ou pas contrôlés du tout avant d'entrer dans le pays. Or, on sait que ces déchets plastiques, lorsqu'ils sont transportés ensemble, peuvent provoquer des réactions chimiques. De la même manière, on ne sait pas si tous les déchets qui entrent sont réellement des déchets recyclables et autorisés, s'il n'y a pas aussi des déchets toxiques et illégaux, des déchets médicaux par exemple.
Sans surprise, cette absence de contrôle associée à l'arrivée massive de déchets supplémentaires est une porte ouverte aux abus. Anne, Greenpeace Turquie a récemment mis au jour un scandale sanitaire.
Oui, à Kemalpaşa, dans la province d'Izmir, sur les rives de l'Égée, les équipes de Greenpeace ont découvert une décharge sauvage à ciel ouvert, remplie de tonnes de déchets plastiques au beau milieu de zones agricoles. La grande majorité de ces déchets, des emballages principalement, étaient arrivés d'Europe. Pour Deniz Bayram, c'est un effet direct de la hausse des importations ces 2 dernières années.
Il arrive que ces sociétés de recyclage qui travaillent sous licence n'aient finalement pas les moyens de recycler tout ce qu'elles importent. Rien ne les empêche alors de revendre leurs déchets à des entreprises qui, elles, n'ont pas de licence. On ne peut donc certainement pas dire que l'intégralité des plastiques qui entrent en Turquie seront finalement recyclés.
Alors que la Chine et d'autres pays d'Asie ont pris des mesures, pourquoi la Turquie ne fait-elle pas pareil? Pourquoi accepte-t-elle d'être la poubelle de l'Europe?
Eh bien, les militants écologistes aimeraient bien le savoir aussi. Alors, il faut signaler d'abord que le problème des déchets et de leur recyclage n'est pas vraiment un sujet de préoccupation dans l'opinion publique turque, qui reste très en retard sur les questions écologiques. Les Turcs, par exemple, ne trient pas leurs déchets et, à part quelques rares municipalités, personne ne les encourage à le faire. Ensuite, il y a des enjeux économiques qui sont apparemment prioritaires. C'est ce qu'a constaté Greenpeace après la révélation du scandale d'Izmir. On écoute Deniz Bayram.
Lorsque nous interrogeons le ministère de l'Environnement, on nous répond que les activités de recyclage apportent une contribution importante à l'économie turque, car elles produisent des matières premières, qu'il s'agit donc d'une activité précieuse. Mais cela se fait malheureusement au détriment de la nature, où nous constatons régulièrement que les déchets sont dispersés.
Il suffit en effet de se promener dans les parcs naturels, les forêts ou sur les plages de Turquie pour constater l'ampleur du problème et le peu de sensibilisation à ces enjeux écologiques. Greenpeace s'est notamment intéressé à l'impact sur l'une des mers qui borde la Turquie, la Méditerranée. Des prélèvements en eau profonde ont révélé la présence d'un déchet tous les 4 mètres carrés et des microplastiques ont été retrouvés dans environ un poisson sur deux.
Merci Alain de Lauer. Je me tourne vers vous Mathieu Combe, on l'a vu hein, depuis cette interdiction de la Chine d'accepter les déchets plastiques européens. On se retrouve avec la Turquie et des tonnes de déchets envoyés par l'Europe, mais pas seulement la Turquie.
Non, il y a également d'autres pays dans l'Asie du Sud-Est, comme la Malaisie et les Philippines, qui également commencent à fermer leurs frontières, un peu plus en Afrique, dans d'autres pays, mais également en Europe. Et également, en fait, tout simplement, en France, au lieu d'exporter pour recycler, on met directement en décharge où on incinère plus de plastique.
Alors justement, est-ce qu'on a une idée de cette proportion de, on a l'impression que tous les déchets européens sont exportés. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces déchets qui partent?
Alors, au niveau de la France, on est environ à 10% des déchets qui sont exportés hors de l'Union européenne, directement ou indirectement, contre plus de 30% en fait, avant l'interdiction de la Chine.
D'accord. Anand Loer parle d'enjeux économiques importants en Turquie. L'an dernier, les importations de plastique auraient ainsi rapporté 770 millions de dollars. Le plastique, c'est un secteur porteur. On peut gagner de l'argent en recyclant ?
On peut gagner de l'argent en recyclant du plastique de bonne qualité. Et tout simplement parce qu'en fait, on va obtenir des granulés qui vont permettre de refaire des produits en plastique et donc de vendre ce plastique recyclé.
Pourquoi on ne le fait pas plus? Dans votre livre, vous le dites, depuis 1950, 381 millions de tonnes de plastique ont été produites. De tout ce plastique, seul 9% a été recyclé. Pourquoi on ne fait pas mieux?
Tout simplement parce qu'en fait, le plastique, dans certains types d'emballages, en fait, il est trop souple. Ça coûte trop cher de le recycler. En réalité, c'est vraiment les emballages tels que les bouteilles et les flacons qui sont rentables à recycler actuellement.
Il y a un manque de filière ou...
Il y a un manque de filière. Il n'y a tout simplement pas d'usine pour les recycler. Et tout simplement, en fait, c'est la matière qui n'est pas d'assez bonne qualité.
Comment on peut résoudre ce problème?
On peut résoudre cela en imposant au niveau politique justement de l'éco-conception et forcer les industriels à faire des plastiques qui seront rentables à recycler.
Donc il y a aussi un manque de volonté politique. Ces 9% révèlent aussi un manque de volonté politique des États européens?
Tout à fait. Il y a une volonté qui commence à apparaître, mais il faut aller encore plus loin en mettant des engagements qui ne soient plus volontaires de la part des industriels, mais des objectifs vraiment définis.
Alors envoyer ces déchets ailleurs, on l'a entendu, c'est encore souvent le réflexe. Le port de Rotterdam, par exemple, premier port d'Europe et gigantesque complexe industriel, a longtemps été un point noir sur le plan environnemental. Depuis quelques années, à force de réglementation, il tente d'opérer une mutation. C'est le reportage de notre correspondant à Amsterdam, Antoine Mouteau.
Une machine à laver, des fauteuils et du plancher. Dans cette déchetterie de Delfshaven, un quartier du port de Rotterdam, toutes les quelques minutes, des voitures souvent pleines à craquer viennent déposer leur chargement. Willemijn, 32 ans, a pas mal de choses à jeter.
J'ai ramené ici du plâtre et du bois. Je déménage, donc on est en plein travaux. Je vais avoir un nouvel escalier, donc celui que vous voyez là part au conteneur.
Une fois dans le conteneur, les restes de son vieil escalier sont directement broyés sur place. Willemijn est en train de déménager du nord de Rotterdam vers le sud, de l'autre côté de la Nouvelle Meuse. Comme pour beaucoup d'habitants de la ville, le tri et le recyclage, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé.
Là, je suis en train de faire le tri pour le recyclage, car je suis en train de déménager, mais d'habitude, je ne le fais pas, car j'habite Rotterdam et ici, on mélange tout.
Comme dans plusieurs grandes villes du pays, les éboueurs ne passent plus devant les immeubles de nombreuses rues afin de faire des économies. Il faut jeter les ordures dans des conteneurs souterrains et pour les déchets comme le plastique, il faut parfois marcher plus longtemps encore pour aller les jeter. En général, Willemijn, elle, ne se donne pas cette peine.
Le verre et le papier, ça oui, je sépare, mais sinon le reste, je le mets dans le même sac car j'imagine que tout est trié ensuite dans une usine ici dans le port.
Depuis plusieurs années, à Rotterdam, les autorités locales disent prendre très au sérieux le problème des déchets non recyclés. Joost van Maren est l'un des responsables de Rotterdam Circulaire, un vaste projet de lutte contre le gaspillage des ressources.
Aujourd'hui, dans le système actuel, on ne trie pas encore assez les déchets et on en incinère donc beaucoup trop. Alors que si on redonne une nouvelle vie à ces matériaux, eh bien non seulement on crée des emplois, mais en plus on peut faire des profits.
Thank you.
D'ici 2030, Rotterdam Circulaire espère faire baisser de 50% la consommation de matériaux dans cette deuxième plus grande ville du pays.
D'un côté, on essaye d'inciter les gens à trier chez eux. Et en même temps, nous développons des techniques pour le faire à leur place s'ils ne le font pas. Nous avons par exemple mis en place un système de transformation des déchets en énergie qui permet de chauffer les habitations. Et dans cette installation se trouve aussi un filtre qui permet de séparer les emballages en plastique, en carton et les métaux du reste afin de pouvoir les recycler à part.
En récupérant les moindres matériaux, la ville de Rotterdam espère atteindre une certaine autonomie et même faire des profits avec l'argent gagné ou économisé grâce à la réutilisation de nombreuses ressources qui aurait bien pu finir à l'incinérateur. Au cours de la prochaine décennie, les autorités espèrent ainsi permettre la création d'entre 3 000 et 7 000 emplois dans le secteur de la récupération. Car c'est tout un système qui doit être repensé, comme l'explique Joost van Maaren.
Vous avez l'exemple de nos conteneurs souterrains. À Rotterdam, la plupart du temps, les déchets domestiques doivent être déposés par les habitants dans des conteneurs souterrains qui se trouvent dans la rue, à proximité de chez eux. Jusqu'il y a encore 3 ans, on avait l'habitude de remplacer ces conteneurs environ tous les 10 ans. On se contentait de jeter les anciens et d'en racheter des nouveaux. Alors que maintenant, on fait fabriquer par des personnes marginalisées sur le marché du travail un nouveau type de conteneur, conçu en plusieurs modules, de sorte à ce qu'on puisse recycler plus facilement telle ou telle pièce usagée.
À Orvliet, un quartier de Rotterdam, depuis 2014, les autorités testent même le tri contre rémunération. Munis d'un badge, les riverains apportent dans une station de recyclage leurs déchets qu'ils ont triés consciencieusement au préalable. En échange, ils reçoivent environ 40 euros par an. Tous ces efforts, Rotterdam les fait aussi parce qu'à l'international, les choses ont changé. Pendant longtemps, la grande ville portuaire exportait ses déchets à l'étranger, notamment vers la Chine, mais cette dernière ne l'accepte plus.
Pendant longtemps, on exportait surtout beaucoup de déchets en papier vers la Chine. Mais maintenant, la Chine a fermé ses frontières. Mais même avant cette décision, nous avions commencé à beaucoup recycler ici et réutiliser notre propre papier.
Mais à Rotterdam, comme dans le reste du pays, ces initiatives ne suffisent pas. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée début novembre par le Central Plan Bureau. Pour cet organisme public chargé de conseiller le ministère de l'Environnement, les Pays-Bas ont beaucoup à faire pour améliorer la situation actuelle. Sur le sol néerlandais, mais aussi à l'étranger, par exemple en imposant une taxe sur l'exportation d'emballages à base de plastique ou même en l'interdisant complètement, pour éviter sur le long terme la production de plastique. Le Central Plan Bureau préconise aussi l'instauration d'une consigne sur les petites bouteilles en plastique et les gobelets.
Mathieu Combe, on voit les efforts qui sont faits à Rotterdam dans ce reportage. L'Europe, elle, s'est fixé l'objectif de recycler la moitié de son plastique d'ici 2025. Ça paraît atteignable ?
Alors, l'Europe va essayer de recycler la moitié de ses déchets, la France 100%. Donc, le défi, c'est réellement déjà pour pouvoir recycler, il faut collecter. Donc le premier défi, c'est de collecter en Europe la moitié des plastiques et en France 100% des plastiques. Pour ça, il va falloir aller chercher auprès des entreprises et auprès des particuliers tous les plastiques qu'ils utilisent.
Ça paraît faisable au vu de ce qu'on voit actuellement. Je crois que dans un article récemment, vous expliquiez que le tri des déchets au niveau individuel a augmenté, mais par contre, celui des entreprises a baissé. Donc, on prend pas la bonne direction.
Oui, en France, le défi, c'était en 2022 de pouvoir collecter tous les types de plastique auprès des particuliers. Et il y a également des lois pour augmenter le tri auprès des entreprises. En revanche, le défi, il est quand même assez important. Il faut voir la différence entre recyclable et recyclé. Actuellement, environ 60% des plastiques seraient techniquement recyclables, mais en France, on n'en recycle que 22% et en Europe, 30%, tout simplement.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas assez de débouchés et de filières. Il faudra, pour faire en sorte que l'Europe recycle la moitié de ses déchets, que les industriels prennent des engagements pour développer l'incorporation du plastique recyclé dans leurs produits. Il y a des engagements volontaires. Peut-être que l'Europe devra aller vers des obligations en pourcentage. Dans un plastique mis sur le marché, il faudra par exemple avoir 50% de plastique recyclé.
On prend cette direction, on sent une mutation au niveau des entreprises ou de l'industrie pour aller vers plus de recyclage, notamment avec cette situation où on parle beaucoup de plastique et de la pollution du plastique en ce moment.
Oui, alors il y a la médiatisation de la problématique et également le fait qu'avec la fin des exportations vers la Chine, ça devient très compliqué pour les entreprises de se débarrasser de leur plastique. Et donc oui, il commence à y avoir une prise de conscience et de plus en plus d'engagement à travers différentes alliances internationales pour aller vers le recyclage du plastique d'ici 2025-2030 de façon beaucoup plus développée. Mais il faut voir à quel point les engagements vont être tenus.
Créer une filière qui en réalité n'existe pas encore réellement aujourd'hui, c'est ça ?
Il faut créer des filières sur différents types de plastique, effectivement, notamment sur les films, tout ce qui est plastique souple, et sur le polystyrène également, le polystyrène des pots de yaourt par exemple. Il n'y a pas réellement de filière aujourd'hui pour recycler ces plastiques en fin de vie, donc ils sont plutôt incinérés ou pire, mis en décharge.
Alors depuis 2019, la plastique a été ajoutée à la liste des déchets dangereux par la Convention de Bâle, hein, ce texte qui interdit d'envoyer des déchets dangereux à l'étranger. Est-ce que ça marche ?
Alors, comme on vient de le voir, ça marche pas puisqu'on continue à les exporter, que ce soit en Turquie, comme l'a dit le reportage, ou encore vers d'autres pays en Asie.
Alors, autre aspect à prendre en compte, le réchauffement climatique qui va lui aussi avoir un impact sur les déchets et leur pollution. La montée des eaux, notamment corollaire de la montée des températures, pourrait envahir les décharges sauvages en bord de mer, dans le golfe du Guinée, notamment en Afrique. C'est ce que nous explique Philippe Quairot, ingénieur à l'Institut de recherche sur l'eau Deltar aux Pays-Bas. Il est au micro de Frédéric Lebel.
Le niveau de la mer monte. Exactement combien, quand ? Personne ne peut le dire, mais on va avoir un bon mètre d'élévation du niveau de la mer d'ici 20, 30 ans, 40 ans. Mais d'ici 2050, on va avoir une bande côtière de la Mauritanie jusqu'à l'Angola qui fait entre 5 et 20 km de largeur. Pas égale partout, mais cette bande côtière va se retrouver sous l'eau de façon temporaire au début et puis de plus en plus permanente. C'est une zone qui est habitée. C'est une zone sur laquelle il y a malheureusement énormément de déchets. Des déchets plastiques, des déchets organiques, des huiles, des piles, tout ce qu'on trouve dans les fossés, dans les canaux, sur les routes. Un gros risque, c'est que la mer montant, elle immerge ces déchets qui sont des super polluants et on va avoir une bande côtière donc entre 5 et 20 km, qui va être stérile et qui risque d'inhiber toute forme de vie ou reproduction des animaux. Donc le problème de la montée du niveau de la mer, c'est non seulement que les gens vont se retrouver les pieds dans l'eau, c'est aussi qu'ils vont devoir migrer vers les terres, mais c'est que la mer ne va plus pouvoir leur apporter sa capacité nourricière.
Alors un dernier point qu'on n'a pas abordé, les déchets électroniques, c'est l'autre grand problème des déchets de la pollution qu'ils provoquent. Un Européen produit en moyenne 20 kilos de déchets électroniques par an. Là aussi, cette convention de Bâle vise à réduire, à interdire l'exportation de ces déchets à l'étranger. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des progrès ?
Alors il y a des progrès, mais il y a encore de nombreux défis, notamment en Afrique.
C'est-à-dire ?
Il y a encore des exportations. En fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on exporte les déchets pour le marché de l'occasion, en disant que c'est du matériel informatique d'occasion. Mais en réalité, c'est des déchets en fin de vie qui vont arriver en fait dans des décharges et qui vont être brûlés à ciel ouvert pour récupérer les métaux principalement. Et donc, le plastique, à ce moment-là, des câbles, va être dégagé dans l'atmosphère et avoir des retombées atmosphériques qui commencent à poser problème.
Donc au final, l'essentiel des déchets plastiques et électroniques reste mis en décharge à l'heure actuelle. C'est quoi la situation ?
Oui, dans le monde, c'est principalement la mise en décharge qui est la destination de nos déchets dans le monde. Au niveau du plastique, c'est 15% des plastiques mondiaux qui sont recyclés.
Mathieu Combes, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, « Survivre au péril plastique, des solutions à tous les niveaux ». Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous retrouver, nous écouter partout, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr, à la rubrique podcast. À demain.